Bienvenue à vous, chers auditeurs ou auditrices. Je suis Robin et nous sommes de retour dans l'étuve pour Powers in the Dark. Dans l'épisode précédent, vous avez fait connaissance avec Charlie, une xénobiologiste en quête de vengeance. Employée au centre thanatotique xéno, elle reçoit un appel paniqué de son amie Nadia qui est stagiaire en ressources humaines. Reprenons l'histoire là où nous l'avons arrêtée. Charlie est dans son bureau au 7e étage du centre thanatotique xéno. Donc le centre thanatotique xéno, c'est une fois de plus, c'est un campus de 3 bâtiments qui est assez isolé dans la borne sud 7, entouré de murs d'enceinte, des barbelés, des gardes, etc., etc. Pour ceux qui ont vu la série Severance, ça ressemble un peu à ça, le parquet, un peu comme ça. Charlie a un bureau au 7e étage, un bureau en paroi en vitre, laissant voir les cubicules aux alentours. Ton téléphone sonne. Et tu vois, écrit sur l'appel digital, ressources humaines.
Je réponds.
Charlie ! Tu reconnais la voix de Nadia ? Ils arrivent ! Ils arrivent pour toi !
Qui arrive pour moi ?
Et tout d'un coup, tu entends la télécommunication qui se coupe entièrement. Ton téléphone s'éteint. Ton ordinateur portable devant lequel tu étais en train de travailler se brouille entièrement et s'éteint, et tu commences à entendre des pas dans le couloir. Là, on va faire une pause, le monde gèle, et on va faire... Donc là, on va passer dans la mécanique du jeu, et on va faire un jet d'engagement.
Wouhou !
Pour déterminer comment va se passer ce début. Donc tu es dans le centre thanatotique xéno, tu viens d'apprendre que tu vas être licencié, qui viennent te chercher pour t'escorter en dehors du bâtiment. En revanche, tu ne peux pas partir du bâtiment sans avoir la preuve de secret que tu pourras utiliser plus tard contre le centre ou contre une des factions qui le soutient. Donc il faut absolument que tu récupères le secret avant de te faire virer. Ou avant d'être escorté en dehors du bâtiment. D'accord ?
Mm-hmm.
Allez, alors on va faire le jet de situation. Donc le jet de situation, donc Engagement Roll dans Blind the Dark, c'est comment la situation commence sur un très bon jet. Tu seras en position avantageuse sur un très mauvais jet. Ça va démarrer sur les chapeaux de roue. À ton désavantage. Et nous allons voir comment l'histoire se passe. Donc, pour ce jet de situation, étant donné que nous sommes dans un milieu d'entreprise, et on parle d'échapper à des gens qui vont essayer de t'attraper, à ton avis, quel type d'événement ce serait ? Clash, donc c'est une violence. Diversion, donc c'est plus mensonge, etc. Top secret, donc c'est tout ce qui est subtilité, couvert, espionnage, quelque chose comme ça. Xéno, donc interagir avec les xéno. Connexion, c'est tout ce qui est événement social. Ou mouvement, c'est tout ce que le transport, déplacement.
Waouh, chaud. Je pense que ça serait peut-être top secret. L'idée, c'est d'arriver à sortir l'info de façon en douce, donc top secret, je dirais.
Donc tu vas faire un jet de situation, et donc c'est un des 6, et on va te donner des bonus et des malus.
Yes.
Et ensuite, à toi de me dire si tu es éligible pour avoir un autre bonus ou un autre malus. Donc, le bonus, c'est que ton amie Nadia t'a prévenu, donc ça va te rajouter un dé.
Oui.
Le malus, c'est que tu t'y attendais pas, donc ça va t'enlever un dé. Donc là, pour l'instant, on est à un dé. Est-ce que, à ton avis, il y a une circonstance, positive ou négative, qui ferait que ça influerait ce jet de situation ?
Les circonstances qui m'aideraient, c'est que si j'ai découvert ce secret-là, je me doute bien que j'ai mis les pieds dans le plat. Et donc, pour peu qu'il y ait eu des caméras quand j'ai vu le truc, ou si j'ai fait ça via un dossier informatique, que j'ai déclenché une alarme, je me suis dit, ils vont vite s'en rendre compte. Donc, je pense qu'elle devait inconsciemment se douter que ça allait arriver. Donc, je pense qu'elle était quand même un peu préparée quand elle a découvert ce secret-là, à directement se dire, où est-ce que je peux mettre les infos ? Comment je peux les sécuriser, comment je peux les faire fuiter. Donc, elle avait au moins ça. Peut-être qu'elle ne se dit pas que les personnes allaient arriver, mais par contre, comment faire évacuer le secret ou le sécuriser, celle devait y penser, quoi.
Ok. Donc, je vais te donner un dé de bonus. Donc, ce sera un dé supplémentaire pour... tu te doutais que ça risquait d'arriver, en gros.
Mm-hmm.
Donc, tu vas lancer 2 dés.
Ok. Attention. Donc, avec les 2 dés, j'ai fait 1 et 5. Donc, c'est 5. Donc, ça veut dire succès partiel.
Parfait. Pour un succès partiel... Tu vois 2 gardes de sécurité, accompagnés de 2 drones de sécurité, mais ils sont au bout du couloir, de l'autre côté d'Open Space, puisque étant donné que ton bureau, c'est des murs en verre, tu peux voir à travers, hein, et tu penses que tu as 2 minutes avant qu'ils arrivent vers toi. Qu'est-ce que tu fais?
Je suis à quel étage? 7e. Je peux passer par la fenêtre, elle est sécurisée. Il y a qu'une seule porte?
Il n'y a qu'une seule porte, oui.
Ok. C'est tout en vert. Donc, je les vois, je les vois comme ils me voient.
Ouais.
Et juste dans la description des mouvements, ils sont tous ensemble, en groupé, ou est-ce qu'il y en a qui arrivent d'un côté, de l'autre,
Non, non, ils sont ensemble. Ils viennent juste de sortir de l'ascenseur. Donc, tu es juste de l'autre côté de l'open space. Alors, imagine, le 7e étage, c'est un assemblement de zones diverses qu'on va définir tous les deux. Il y a probablement un panel d'open space avec des tables, des cubicules, des trucs, des machins. Il y a probablement une zone de recherche. Donc, imagine, tu es dans un building corporatif. Et ton bureau est composé de juste une chaise, un bureau, ton ordinateur portable qui est éteint, ton téléphone qui s'est éteint et une plante à plastique. Voilà, c'est ça.
Il y a plusieurs bureaux et des open space où tout le monde est dans différents bureaux comme ça. Parce qu'en fait, en gros, ce que je voudrais faire, c'est je prends l'ordinateur sous le bras, je passe la porte au plus vite et après, s'il y a une sorte d'open space avec des sortes de cubicles et donc des petits murets, c'est me déplacer en baissant comme si j'étais en train de récupérer une feuille par terre et puis qui était tombée et puis j'avance en faisant elle glisse fervent devant moi et je continue à avancer mais en essayant un peu baisser et vers la sortie de secours qui doit être à l'opposé de l'ascenseur.
Tu peux faire ça sans aucun problème. Alors t'as pas de preuve sur ton ordinateur portable.
Elle est où la preuve?
Ah, elle est dans le système informatique probablement quelque part. C'est pour ça qu'il faut que tu la récupères. Mais ton plan fonctionne à merveille étant donné que t'as fait un 5. Donc, tu sors de ton bureau en attrapant ton laptop éteint que tu caches sous ton bras. Tu vois qu'il n'y a pas grand monde, en fait, dans cet open space. Je sais pas, c'est bizarre. Il y a moins de monde que d'habitude. Mm-hmm. Et tu commences, en gros, à avancer quasiment à 4 pattes et essayer non seulement de t'éloigner et de te cacher en même temps. Et tu commences à t'éloigner. Alors maintenant, je vais t'expliquer la mécanique de jeu. Il y a 2 mécaniques de jeu qu'on va faire. Je vais instaurer une jauge de se faire attraper. Mm-hmm. Cette jauge a 4 segments. À chaque fin de scène, tu vas lancer un jet pour la progression de la jauge. De 1 à 3, la jauge va avancer de 2 segments. Sur un jet de 4 à 5, la jauge va avancer d'un segment. Et sur un 6, la jauge avancera aussi d'un segment, mais tu auras un bonus sur la prochaine scène. Donc, chaque scène, ça va être en gros un endroit où tu vas aller. Et en gros, la jauge va représenter les gardes qui sont venus t'escorter, qui vont te rattraper. Ok ?
Oui.
Et dernier point de règle, donc ça c'est un point important. Étant donné qu'il y a énormément d'équipements autour de toi, t'es dans un bureau, etc. Donc il y a ce qu'on appelle dans Power of the Dark et Blade of the Dark, tu as chaque membre du gang a ce qu'on appelle un niveau d'équipement. Donc léger, moyen, lourd et surchargé. Là, on va considérer que tu es en lourd. Alors, c'est pas parce que tu portes 2 tonnes d'équipement de cambriolage sur le toit, mais parce qu'il y a tellement d'équipement autour de toi que j'attrape sur le bureau telle affaire, il y a de fortes chances que telle affaire se trouve. Même si c'est un peu exotique, tu es dans un centre de recherche. Donc, je sais pas combien de points ça te donne, le niveau lourd.
Ça me donne 6 points.
6 points. Donc, tu peux utiliser 6 points d'équipement. Ça fait déjà beaucoup d'équipement, donc n'hésite pas à les utiliser parce que les équipements vont te donner des bonus quand tu en auras besoin. Parfait ?
Ouais.
Tu commences à ramper sous les cubicules en essayant de t'éloigner et tu passes devant une des salles d'expérimentation scientifique. Alors que tu avances, tu vois que la salle est en cours d'utilisation. Donc c'est une salle, une sorte de salle blanche sécurisée. Quand elle est en cours d'utilisation, personne ne peut rentrer et personne ne peut sortir sans avoir désengagé le protocole de sécurité. Alors que tu passes devant la fenêtre, et tu vois, il y a une sorte de voyant rouge qui montre que la salle est occupée. Tu vois une jeune femme qui est habillée de pied en cap avec l'équipement de laboratoire obligatoire. Donc une sorte de longue blouse blanche, un long tablier de protection, une sorte de casque, un masque respiratoire. Sous l'équipement, tu peux remarquer que ça a l'air d'être une jeune femme des îles. Quelque chose comme ça. Tu dirais peut-être une peau caramel un peu guadeloupée ou quelque chose comme ça. Qui a un des spécimens xéno, donc un des 2 spécimens xéno sous sa forme naturelle, que tu reconnais, parce que étant donné qu'il n'y en a que 2, tu les connais. Donc c'est le premier spécimen qui a été capturé il y a 10 ans, qui est une sorte de blob, sauf que en vieillissant, le corps ne s'est pas désagrégé, mais il s'est solidifié, donc parce que c'est une matière amorphe et visqueuse, un xéno. Et donc là, ça ressemble plutôt à une sorte de, une sorte de blob de polystyrène, quelque chose comme ça, parce que la viscosité a disparu et le corps, le liquide s'est rigidifié. Et tu vois que cette personne-là est en train de gratter le corps et en recueillir une sorte de particules. Tu sais, un peu comme quand tu racles du fromage. Mais des quantités infimes. Hein. Et donc, tu passes devant ça, mais étant donné que le protocole est engorgé, tu ne peux pas rentrer. Peut-être que tu pourras revenir plus tard. Mais tu es obligé de passer devant. Et là, tu arrives devant. Et ben, vers où tu te diriges ?
Je pense que j'ai envie d'augmenter mes chances de pouvoir m'évacuer. Et après, d'avoir un peu de temps pour récolter l'info que j'ai besoin de récupérer. Donc, mon idée, c'est, de façon impulsive et stratégique, se dire augmenter mes chances avec une plus grande diversion. Donc, faire ouvrir la porte pour que ça déclenche l'alarme, puisque normalement, ça serait hors de la procédure et tout. Donc, c'est comme s'il y avait une faille. Ça doit déclencher d'autres systèmes de sécurité ou d'autres alarmes qui vont sonner ou machin. Et donc, ça devrait mettre de la pagaille. Et donc, peut-être perturber les systèmes des drones ou autres qui vont avoir des messages en disant « il y a une autre alarme à gérer, quelle priorité ?» ou tout ça. Donc l'idée, c'est de faire ouvrir cette porte, ce serait ça.
Et comment tu ferais ça ? Donc imagine, c'est une porte de laboratoire verrouillée qui est gérée électroniquement.
Ouais, vu que tu as dit que sur les différents bureaux, tout ça, c'est comme des salles d'expérimentation avec plein de bureaux et tout, il doit y avoir un outil que je dois pouvoir récupérer avec mon expérience et que je peux connecter à la... au boîtier, ou parce que c'est des expériences fermées avec des badges ou autre, donc je me doute bien que mon badge a dû être désactivé ou autre, donc pour me bloquer.
Est-ce que tu l'essayes pour voir ?
Non, avec cet outil-là, l'idée c'est de faire sauter l'ouverture de la porte, quoi, de désengager l'agrégage, donc c'est plus rapidement arriver à faire un courjus sur le boîtier de sécurité, qui vraiment c'est du sale travail, ce qui fait que ça saute et ça déclenche des contre-mesures, quoi.
Ok. Ben on va faire un petit jet quand même, hein ? Ça mérite de faire un petit jet, ça.
Ah bien sûr, ah oui, tout à fait.
Alors ce serait un jeu de quoi à ton avis ?
Oh ouais, c'est du bricolé là.
Allez, du bricolé. Et donc tu me dis que tu veux prendre un équipement, donc est-ce que tu vas dépenser un point de ton équipement ?
Oui, dans la feuille playtest, dans la différente liste, il y a un truc qui s'appelle outil de démolition.
Ok, ben, ça me va, et donc ça te coûte...
Ça prend 2 points.
Ok, et donc, allez vas-y, fais ton jet bricolage.
Est-ce que je peux essayer de me donner un peu plus de chance en me dépassant ou...
Tout à fait. Donc tu vas te dépasser, donc ça va te coûter deux points de stress.
Ouais.
Donc étant donné que tu utilises un outil, ça va rajouter un effet supplémentaire. Donc ce que tu essayes de faire quand même, c'est désespérer... Non, c'est risqué, effet limité, mais comme tu utilises ton outil, ça va être risqué, effet standard, et ça va suffire pour faire ce que tu veux faire si tu réussis. Donc combien tu as en bricolage ?
J'ai 2 en bricolage, et donc avec le point, ça donne 1 dé de plus, c'est ça ?
Oui, avec dépassé, oui, donc c'est ça, 3 dé.
Donc ça ferait 3 dé.
Vas-y, ta-na-na, premier jet de Charlie, on va voir si elle va être chanceuse ou pas.
Non, 1, 3 et 3, c'est que des 2, donc ça fait 3.
Donc c'est
raté.
Putain, catastrophe.
Ouais, catastrophe. Alors, dis-moi, qu'est-ce qui se passe ?
Eh bien, c'est très facile. Tu commences à bricoler la serrure avec ce que t'as, une sorte de fer à souder que tu as attrapé sur une sorte de chalumeau laser que tu as attrapé sur un des bancs de test. Et alors que tu fais ça, tu vois que le protocole de défense s'enclenche et tu vois que le protocole va envoyer un arc électrique qui va te frapper de plein fouet et tu vas prendre une blessure de niveau 3. Si tu veux résister, tu peux résister. Dis-moi si est-ce que tu peux faire un jeu de résistance pour le diminuer. Et donc là, tu vas être grièvement brûlé.
De toute façon, on peut prendre qu'une blessure de niveau 3, donc je vais essayer de ne pas tomber KO dès le début quand même. Donc je vais essayer de résister, ouais.
Donc il faut que tu lances 1 des 6.
Ok.
Et en fait, tu vas perdre 6 points de stress moins le résultat sur ton jet de dé. Et du coup, ça baissera à niveau 2.
Là, j'ai fait 4. Donc 6 moins 4, ça fait 2.
Donc tu perds 2 points de stress, et donc tu as juste un niveau de blessure de 2 au lieu de 3. Mmh. Et donc on va appeler ça, tu as été brûlé. En revanche, tu vois qu'une alarme se déclenche quand même. C'était peut-être pas l'effet escompté, mais une alarme se déclenche, et là, tu vois que les personnes qui te pourchassent repèrent rapidement où tu te trouves, et commencent à courir dans ta direction en disant « Mademoiselle Blanchette, arrêtez-vous !» On est là pour vous aider, arrêtez-vous! Et tu vois les robots drones qui se séparent des deux gardes qui te courent après. Un qui va vers la droite, l'autre qui part de l'autre côté. Qu'est-ce que tu fais?
Là, je vais essayer d'aller faire la sortie de secours pour aller dans un autre endroit. et je vais laisser tomber mon ordinateur comme ça pour leur dire peut-être qu'ils vont penser que c'est dans l'ordinateur qu'il y a l'info alors que c'est pas vrai, et comme ça peut-être me laisser aussi un peu de temps, quoi.
Ok, donc tu lâches l'ordinateur et tu commences à courir pour aller. Est-ce que tu as une idée d'où tu vas, ou tu cours juste dans le bureau, ou...
Bah, en fait, théoriquement, je devrais courir là où je sais que l'information que je cherche est, puisque je suis censé avoir cette information-là, donc je dois savoir où la récupérer. Donc, soit c'est dans un serveur, un truc comme ça.
Tu sais que l'information est dans le système informatique.
Donc, il y a une sorte de serveur quelque part où je dois pouvoir récupérer les endroits où sont stockés dedans, ou me connecter via ce serveur-là pour les récupérer.
Possiblement. Il faudrait que soit tu trouves une salle informatique ou...
Ou alors, vu que tu me dis que c'est lié par l'accréditation, je dois savoir qu'il doit y avoir un professeur dont je sais qu'il ou un haut gradé, ou je sais pas qu'on appelle ça, un boss pour qui je travaille, dont je sais qu'il y a accréditation. Et donc l'idée, c'est d'aller là où je peux me connecter à son compte, parce qu'il a un mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6, et choper depuis ce truc-là, quoi.
Ok. Il y a le bureau de chef de service qui s'appelle Max Marchand. Donc tu sais que il a un bureau qui est pas loin, donc tu peux essayer de te faufiler jusqu'à son bureau pour.
Je pourrais utiliser un flashback pour dire que je connaissais son mot de passe, que je savais que ça pourrait me servir dans mes trucs et tout, et donc voilà.
Ok. Avant qu'on fasse ça, comme on change de scène, tu vas faire ton jet de changement de scène pour savoir comment la jauge évolue. Mm-hmm. Tu vas faire un test de rôder. Parce que là, tu essayes toujours de te cacher.
Donc là, j'ai zéro, donc... Ouais.
Rôder ou manipuler, étant donné que t'as lâché ton ordinateur pour essayer de détourner leur attention en disant « elle a lâché son ordinateur », etc. Donc choisis celui que tu veux. Ou autre chose, si t'arrives à me justifier que tu utilises autre chose pour t'éloigner de tes poursuivants.
Non, j'ai rien à justifier pour mes compétences. Et pour l'instant, je suis pas encore en interaction sociale pour faire ce que j'aimerais faire.
Mais comment tu utiliserais ton interaction sociale? Tu pourrais crier, tu pourrais déclencher une panique?
Non, en fait, c'est pas forcément mon interaction sociale, c'est le pouvoir. On a parlé tout à l'heure de pouvoir que je pouvais avoir. Ce que je me suis dit, c'est que... Ça, tu vas me dire si le pouvoir peut être existé ou pas. Puisqu'on a évoqué, que le Charlie a pu acquérir ce pouvoir via la première interaction avec le Xeno, avec le corps désagrégé du Xeno qui lui est tombé dessus, et finalement, il y a une partie de ce truc-là, ou Grisieux qui... Et peut-être parce que comme elle était mutante, ça a pris dans ses gènes ça. Et comme tu as dit que c'était des gens plutôt télépathes, ce que j'aurais pensé comme pouvoir, c'était plutôt un brouilleur temporaire de pensée. Et en fait, ça peut perturber les gens quand elles le déclenchent. Alors ça pourrait être, je sais pas, plus ou moins contrôlé, ou plus ou moins sur une personne ou sur une zone. Les personnes qui ont des pensées se trouvent perturbées. C'est pas pour les orienter à faire quelque chose, c'est plutôt ils sont désorientés en fait.
Génial!
Après, je pense qu'il faut être plutôt proche d'eux. Ça peut pas être un truc que je peux faire à une trop grande distance des gens.
Moi, ça me va très bien. Donc, on va dire que pour ce jet d'entre-scène, tu vas utiliser ton attribut Xeno.
Ouais.
Puisque tu vas utiliser ton pouvoir pour faire ça. Ça te va?
Oui.
Ok. Donc, ben, lance ton attribut Xeno.
Donc là, l'attribut Xeno, c'est la partie détermination. Ok, là, j'ai 3.
Ok. Donc, tu lances 3d6. Et une fois de plus, si tu fais entre 1 et 3, la jauge gagne 2 segments. Si tu fais 4 ou 5, la jauge gagne 1 segment. Si tu fais un 6, la jauge gagne un segment, mais tu as un bonus d'un dé à un moment sur la prochaine scène.
Ouais, et ben, je vais changer les dés parce que j'ai fait, sur 3D, j'ai fait 1, 1 et 3, donc 2 segments.
2 segments. Et ça se manifeste comment, ton désorientation télépathique? Est-ce que c'est un truc visible? Est-ce que c'est les gens, ils se tiennent la tête? Ou est-ce que, comment ça se marche?
Je verrais ça plutôt comme un brouilleur, dans le sens... en fait, les gens ont désorienté, donc ils se tiennent pas la tête, mais d'un coup, soit ils s'arrêtent, soit ils tombent, soit... Ouais, en fait, ils sont juste désorientés d'un coup, toutes leurs pensées sont bloquées. Donc, elle fait pas une douleur, c'est juste comme quand tu perds ton signal, quoi. Voilà, tu perds signal GPS, tu perds tes 5G, tu perds... Voilà, et pouf.
Ok.
Ça dure pas très longtemps, mais voilà, ça... Ouais, ça...
Tu commences à courir pour t'éloigner de tes assaillants, et il y a un de tes collègues, qu'on va appeler Gérard, qui est devant son ordinateur en train d'écrire un rapport. Et tout d'un coup, tu vois que les yeux de Gérard s'écarquillent et il ne bouge plus pendant un long 15 secondes. Mais il ne bouge plus, comme s'il était gelé. Et tout d'un coup, bam, il a la tête qui tape contre le clavier. Il a les trucs du clavier qui se sont imprimés sur son front. En revanche, ce dont tu te rends compte, c'est que bien que tes poursuivants, les deux gardes qui te poursuivent, sont aussi désorientés, tu vois qu'un des drones n'est pas du tout affecté.
Normal, c'est clair, c'est plus pour des êtres vivants, donc c'est tout à fait logique. Ouais.
Et donc, il te voit t'avancer, et puis il indique aux autres où tu te trouves, et vous continuez à vous avancer. Donc, la jauge a gagné 2 segments sur 4, après la première scène. Et donc, tu arrives au bureau de Prune Cériac. Donc, Prune Cériac, c'est l'assistante du chef de service, Max Marchand. Donc, pour te décrire un peu le lieu, Prune, elle a une sorte de comptoir qui se trouve devant le bureau de Max Marchand, qui est un bureau fermé. Hein. Mmh. Et sur le comptoir, il y a... Alors, contrairement au reste du bureau qui est très net, qui est très propre et bien rangé, elle a des tonnes de papiers. Alors, normalement, les papiers sont interdits dans le centre thanatotique pour des raisons de sécurité, hein, pour éviter que les informations fuient. Mais elle a 2 tonnes de papiers sur son bureau. Et derrière son bureau, tu vois que Prune n'est pas là. Elle est connue pour aller descendre à l'étage en dessous parce qu'elle est copine avec d'autres assistantes de chef de service et il y a beaucoup de ragots et de rumeurs pendant ce type de discussion. Elle prend de longues pauses café. Mmh. Donc là, elle n'est pas là. Et derrière, il y a le bureau de Max Marchand, donc du chef de service, qui est ouvert avec un ordinateur, une chaise assez relativement confortable, quelques décorations d'art. Et sur son bureau trône fièrement un trophée de golf. Donc c'était le trophée de golf d'entreprise d'il y a 2 ans où il faisait partie du quatuor qui a gagné cette année-là. Donc voilà. Donc tu as ça devant toi, qu'est-ce que tu fais ?
Bah là, je me dépêche de faire ce que j'ai mon idée, c'est de connecter à son ordinateur, télécharger l'info dont je sais où que j'avais repéré. Parce qu'en fait, comme tout bon scientifique et chercheur et tout ça, et dans ces milieux hyper sécurisés, on n'a pas droit aux clés USB ou trucs comme ça. Mais en fait, on en a tous une. Ou alors, Charlie, dans son équipement, il y a un truc qui s'appelle document. Donc peut-être qu'elle a une sorte quand même de disque dur, un petit disque dur USB ou un truc comme ça.
Ok.
Et flash. Ou lui, Max, dans son truc, malheureusement, il a un truc comme ça. Et donc, elle chope son équipement, elle le branche sur l'ordinateur vite fait et elle télécharge ce qu'elle avait repéré, quoi.
Parfait. Ça va te coûter 1 point d'équipement, ouais, d'avoir ce stockage amovible. Tu rentres rapidement dans le bureau de Max Marchand et là, tu te rends compte avec horreur. Max est probablement en réunion et il a pris son ordinateur portable avec lui. Donc, sur le bureau, tu vois l'écran, le clavier et la souris USB. Pas d'ordinateur. Malheureusement.
On va faire un flashback parce que peut-être que je sais qu'il a un ordinateur de secours parce qu'il a une paranoïa de perdre ses données et donc il a un ordinateur dans un tiroir qui permet, ou alors, comme dans certains mondes que je connais, il y a des gens qui ont un PC et un Mac parce que tout n'est pas compatible et donc il a ce deuxième ordinateur d'appoint qui est à côté, donc ça prend un peu de temps, mais je peux peut-être l'activer pour le mettre.
D'accord. Ok. Alors, on va le faire d'une certaine façon, mais oui, il n'y a pas de problème. Ça va te coûter cher, ça va te coûter 2 points de stress pour ce flashback, parce que c'est quand même un gros truc que tu demandes. Est-ce que tu es sûr que tu veux le faire ?
Oui, je veux le faire, je suis une joueuse invétérée. Je ne vais pas m'arrêter à un truc en si bon chemin.
Donc, tu vas dépenser 2 points de stress, et tu vas faire un jet d'action, parce que mine de rien, c'est un truc important. Alors, pour celui-là, je pense que ce serait...
De toute façon, j'ai pas de compétences, sauf si étudier, ça marche.
Allez, étudier. Ouais, ok. Mais comment tu es arrivé à relier le flashback avec étudier ?
Si je me souviens bien de la définition de étudier par rapport à investiguer, c'est qu'il y en a un qui est plus sur le court terme, entre guillemets. C'est tu captes les infos et tu les intègres. Mm-hmm. Et donc le flashback, c'est parce que je savais, je viens pour travailler dans un domaine particulier où je cherche à collecter des infos, donc je suis très attentive à tout ce qui peut m'avancer, et forcément quand t'es chez ton chef ou autre, tu te dis d'avoir des infos qui peuvent être très intéressantes, et c'est pas forcément avec des mauvaises intentions au départ, mais donc t'es vigilante sur les infos accédées. C'est comme ça que j'ai su qu'il avait cet ordinateur d'appoint pour des secours d'infos, parce que des fois il perturbe, il oublie, donc il en prend un et puis il laisse l'autre, enfin voilà. Et donc j'ai étudié sa façon de fonctionner. Et surtout, quand j'ai découvert ce secret inavouable, qu'il y avait peut-être un Xeno qui était encore en vie et tout, je me suis dit, il faut absolument que je puisse faire sortir ça. Et donc, qu'est-ce qui pourra m'aider à savoir ? Et puis, le chef de service, Max, il a ces infos-là, parce que finalement, il est bien coupable. Donc, il a accès à ça. Donc, j'avais repéré comment j'aurais pu transférer les infos. Quoi.
Ok. Eh bien, vas-y. Donc, je pense que c'est assez désespéré, avec un effet limité. Mm-hmm.
Alors par contre là, je prendrais bien une contrepartie parce que il me reste que 3 points de stress avant de tomber dans les pommes.
Ah oui, c'est parce que la situation est assez stressante. Voilà. Les autres courent toujours après toi, hein, donc.
C'est ça. Donc je voudrais bien prendre une contrepartie parce que là j'ai un seul dé.
Alors je vais t'offrir une contrepartie. Son ordinateur, parce qu'il est moins sécurisé, a un accès limité au réseau.
Okay.
Et donc tu risques de pas avoir accès à toute l'information ou tu risques d'avoir plus de difficultés à accéder à l'information.
Non, mais ça m'intéresse pas. Alors, dans ce cas, je fais pas de contrepartie, je fais juste un seul dé, quoi.
Allez, vas-y, un seul dé.
Hop, allez.
Ta-da-da.
Eh ben non, j'ai fait 3. J'ai changé de dé, mais j'ai quand même fait 3.
Tu les accumules ?
Ah bah oui, comme les autres, c'est bien, moi, c'est que ce soit pour Sam ou pour Morgan, c'est cohérent.
Voilà ce qui se passe. Donc c'est, ça reste quand même juste un flashback. Hein. Donc sur le flashback, tu essayes de te souvenir de l'endroit où, où il garde son ordinateur de secours. Et tu te souviens, en fait, il est dans le deuxième tiroir de son bureau. Et alors que ta main se dirige dans le deuxième tiroir du bureau pour l'ouvrir, eh ben, le tiroir est fermé à clé. Donc tu ne peux pas avoir accès à l'ordinateur pour l'instant comme ça. Donc ça va être ça le résultat de ton flashback. Et étant donné que c'est une échec critique, tu vois qu'un des droïdes de sécurité arrive devant le bureau et il faut que tu t'enfuis, sinon il risque de t'attraper maintenant. Qu'est-ce que tu fais ?
Elle sait que l'info existe et qu'elle est vraie, elle l'a pas inventée, donc elle la retrouvera quand il faut et là elle va plutôt essayer de pas se faire...
De pas se faire attraper et de partir en courant.
Voilà, c'est ça.
Ok, donc tu vas faire le deuxième jet donc de changement de scène. Et donc, bah, étant donné que tu t'enfuis en courant, ça va être un truc physique, hein. Style pourchasser, ça a l'air bien ça, non ? Pourchasser ?
Oui, oui, si tu dis ça, oui, je vais en réfléchir ce que ça pourrait être d'autre part, mais ouais, ouais. Mm-hmm.
Ou sinon, ça peut être rôder.
Dans les deux cas, c'est pareil.
Ok, est-ce que tu veux essayer de te dépasser ? Parce que là, si tu rates, la jauge passe à 4 et tu captures rien.
Bah, si je me dépasse, oui, il me reste encore un point, donc je vais me faire ça.
Très bonne idée.
Donc en fait, c'est pas un dé supplémentaire, j'ai un seul dé et je le lance. Alors que l'autre, j'aurais lancé deux dés, mais je gardais le moins bon.
Ouais, mais c'est déjà pas mal, parce que t'as moins de chances de rater.
Oui, tout à fait. 3.
Sans rire.
Non, c'est 3 encore. Donc, je vais être capturé. Mais comme tu le dis, peut-être qu'ils vont pas juste, ils vont juste me taper sur le doigt et ils vont pas ça. Peut-être que Charlie est un petit peu trop sur le stress et voilà. On va savoir qu'est-ce qui se passe quand elle est capturée.
Voilà ce qui se passe. Donc, elle s'élance. Elle sort du bureau. Elle saute par-dessus le comptoir de Prune Cériac, faisant balancer tous les papiers en l'air. C'est beau, elle commence à courir et à ce moment-là, elle reçoit une décharge électrique d'un des droïdes qui est une sorte de taser et Charlie s'écroule. C'est juste un truc qui la sonne, hein, c'est pas du tout un truc qui la met complètement KO. Elle souffre pas. Mais par contre, elle se fait attraper par les deux gardes de sécurité qui sont là et qui l'attrapent fortement et qui l'emmène en fait contre son gré plus ou moins. Alors je sais pas si tu essaies de résister ou pas.
Non, je suis KO.
Non, t'es pas KO, t'es juste un peu étourdi, quoi. C'était pas un gros choc.
Bah, alors, il restait plus qu'un seul point de stress, donc pour moi, je pense que c'est plutôt cohérent qu'en sautant avec le truc, elle se prend la décharge si elle...
Ok, elle a abandonné. Ok, très bien. Donc, Charlie se fait attraper, et les gardes de sécurité qui sont pas méchants, ils sont pas belliqueux, ils disent « Eh ben, vous nous avez fait courir Mademoiselle Blanchette, on m'a demandé de vous amener devant la ressource humaine. » Et puis ensuite, on vous escortera en dehors du bâtiment. S'il vous plaît, pour votre propre sécurité, n'essayez pas de vous enfuir. Donc, il t'emmène. Et donc, devant l'ascenseur de l'étage où tu te trouves, du 7e étage, tu vois une femme qui te dit « Mademoiselle Blanchette, je suis Johan Harimar. Je suis fais partie des ressources humaines. Et je viens vous dire que malheureusement, nous devons nous séparer de vous. Vous êtes licencié à effet immédiat. » Étant donné la nature confidentielle de nos activités, bien sûr, vous êtes tenu au secret par votre contrat, mais aussi, nous allons vous escorter dehors, où vous allez pouvoir regagner votre véhicule et rentrer chez vous. Sans te laisser le temps de répondre, tu vois que les deux gardes de sécurité, toujours accompagnés des deux drones, te font rentrer dans l'ascenseur, et l'ascenseur donc descend du 7e étage. Est-ce que Charlie fait quelque chose de particulier ? Donc imagine, il la tient toujours, c'est assez musclé comme...
Non, une fois qu'elle s'est un peu, entre guillemets, une fois qu'elle s'est un peu réveillée, entre guillemets, et qu'elle a été présentée à Joanne et qu'elle dit ça, non, elle fait la bonne élève, quoi.
Ok.
De toute façon, elle se dit que c'est pas la peine, c'est pas son esprit d'être combattante, machin, tout seul, elle va juste essayer d'écouter, de prendre des infos et de regarder, voilà. Et elle pense aussi à différents scénarios ou autres, voilà.
Ok. Tu es juste avec les deux gardes de sécurité. Les drones ne rentrent pas dans les ascenseurs, tu le sais. Ils ont d'autres modes de déplacement entre étages. Et tu descends. Et tu vois les numéros. Donc tu vas vous êtes au niveau 7. Tu vois 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et puis vous arrivez au rez-de-chaussée, tout simplement. Et l'ascenseur s'ouvre. Et donc les gardes de sécurité, toujours en te tenant assez fortement, te sortent de l'ascenseur et, contrairement à ce que tu aurais pensé, au lieu de t'amener sur le devant de la porte, ou là où tu as la réception, etc., etc., ils t'emmènent vers l'arrière du bâtiment, vers une porte de sortie arrière, tout simplement. tu as pu peut-être passer par là ou pas, mais tu sais qu'il y a une sortie à l'arrière du bâtiment, là où les livraisons sont faites, etc., etc. Donc, et un des gardes de sécurité, probablement le plus jeune d'entre eux, dit « On va vous faire passer par derrière, ça va vous éviter de devoir que tous les gens vous regardent, etc. etc. » Puis on vous escortera à votre voiture. Vous êtes venu en voiture ?
Je pense que Charlie, il y a des transports publics et des métros, non ?
Oui.
Donc, non, je suis en transport en public. Je suis avec le tube, l'hypertube.
Et donc, on va vous faire sortir par derrière, et puis ensuite...
Si j'ai encore mon domicile, hein, parce que pour les autres, ils ont perdu leur domicile, donc...
Ah bon ? Et tu vois que l'autre garde jette un regard assez noir à son collègue, style « ferme-la ». Vous sortez par la porte de derrière, donc là vous êtes dans le bâtiment, donc en gros, vous sortez sur une sorte de zone arrière d'un des bâtiments, et là il y a quoi ? Ben, il y a rien en gros, il y a des docks, tu sais, pour les livraisons. Mm-hmm. De l'autre côté, c'est une sorte d'espace, un tout petit espace végétal, et ensuite le mur d'enceinte de 2 mètres et quelques avec des barbelés et tout. C'est un peu bizarre quand même qu'ils te font passer par là. Mais ce qui te choque le plus, c'est que dehors attend un agent de maintenance et tu remarques qu'il y a une grande bâche en plastique qui a été déployée au sol, qui doit faire un bon 3 mètres sur 3 mètres.
Excellent. Bon, je ne veux pas être paranoïque en me disant qu'ils vont me flinguer, ils vont me flinguer sur ce pour ne pas salir le sol, m'empaqueter et me balancer dans la poubelle. Ok.
Et donc les gardes t'amènent en plein. En fait, ils se dirigent droit sur la bâche. Est-ce que tu fais quelque chose de spécial ?
Oui, je fais quelque chose de spécial. Bon, le premier truc que je fais, c'est je demande à celui qui est sympa, c'est quoi votre prénom ? Parce que peut-être qu'après, on pourrait aller boire une boisson. En fait, elle essaie de jouer, pas séductrice, parce que c'est pas trop son style, mais plus l'empathie pour dire que ça permettra de récupérer les infos plus tard. Et c'est quoi votre prénom ? Si vous voulez, on peut se retrouver après pour une boisson dans le café. Et puis, vu le secteur, ça fait quand même quelques fois que je travaille, je dois connaître le nom de secteur au café machin. Et je ne m'avance pas encore sur la bâche.
Donc, alors que vous sortez et que ce garde de sécurité-là, le plus jeune, voit la bâche au sol, tu remarques son expression, il écarquille les yeux, il blanchit même.
Et je me doute, voilà.
Et alors que tu lui dis ça, il se retourne vers toi, il a un peu la lèvre un peu tremblante, et il te regarde, il répond, « Marc, je m'appelle Marc, je suis vraiment désolé, mademoiselle. » Charlie ne semble pas être en bonne posture. Que va-t-il lui arriver ? Et surtout, pourquoi ce gentil garde de sécurité s'excuserait ? Vous le découvrirez dans le prochain et final épisode de l'introduction de Charlie. D'ici là, envoyez-nous des messages et parlez d'un Durolis sur les réseaux sociaux où vous pourrez nous trouver sur Mastodon et Blue Sky. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube pour être notifié des nouveaux épisodes et surtout pour nous laisser des commentaires. Le jeu de rôle, c'est une activité sociale extraordinaire, que ce soit en groupe, en duo comme nous, et même en solo. Alors faites-en ! Et surtout, amusez-vous bien ! Allez, salut !